Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelé SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je discute en mode interview avec David Côté de Loop Mission. Vous allez voir, l'histoire de David est vraiment intéressante. Beau succès québécois avec un modèle d'affaires très différent des modèles traditionnels. On va aborder entre autres comment Loop est né d'une opportunité de valorisation de données. Et le plus beau là-dedans, c'est que cette donnée-là existait et était disponible et non exploitée depuis plusieurs dizaines d'années. On parle également de comment David a décidé de repartir complètement à zéro alors qu'il avait déjà deux belles entreprises en pleine vélocité. On fait quelques apartés sur comment ils ont trouvé le nom de Loop et les enjeux rattachés à la sélection de ce nom-là. Et également comment David a une vision très intéressante sur les biens matériels et sa capacité à prendre des risques, ce qui est extrêmement pertinent pour les gens qui veulent développer des produits techno et prendre des risques. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! David Côté, cofondateur chez Loop Mission. Vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. David, comment vas-tu?
Très bien. Très content d'être là. Merci de l'invitation.
Vraiment emballé. Puis la raison pourquoi je suis emballé, que tu prennes le temps avec nous aujourd'hui de nous expliquer un petit peu ton parcours puis l'histoire de Loop. C'est un podcast un peu out of the box qu'on fait aujourd'hui. Puis je veux vraiment mettre de l'avant un angle ou un aspect qui est super important, que je pense que beaucoup d'entrepreneurs parfois ne valorisent pas ou ne négligent, ou plutôt qu'ils négligent dans leur entreprise ou dans leur modèle d'affaires, c'est la valorisation des données. Et pourquoi j'explique ça, c'est que l'histoire de Loop et le modèle d'affaires de Loop est extrêmement basé sur la valorisation des données. Et à la première écoute que je vous dis ça, vous allez dire, mais non, ça fait pas de sens, c'est pas du tout ce que Loop fait. Mais vous allez voir dans l'histoire que David va nous conter, les éléments vont s'interconnecter pour que vous puissiez vraiment comprendre que c'est de la valorisation de données, et je veux au fur et à mesure que vous écoutez David conter son histoire, que vous réfléchissiez dans votre entreprise et dans votre industrie, quelle donnée n'est pas valorisée. Et le cas de David, vous allez voir, c'est hallucinant, c'est de la donnée qui dormait sur les tablettes depuis probablement des dizaines d'années. Et David a eu un flash après un appel qu'il a eu, disait « Mon Dieu, cette donnée-là, on peut probablement la valoriser. » Et la donnée est effectivement interreliée à un produit qui est physique. Mais je me répète, dans vos entreprises, il y a probablement de la donnée qui n'est vraiment pas utilisée, qui soit interreliée avec un produit physique ou pas. Réfléchissez à ça au fur et à mesure qu'on va parler de l'histoire de David, parce qu'il y a probablement beaucoup d'argent qui dort sur les tablettes. Et il y a vraiment probablement des beaux modèles d'affaires qui peuvent se dessiner à l'intérieur de vos entreprises, à l'intérieur de vos startups ou même dans le produit que vous tentez de développer à l'heure actuelle. Donc, David, je t'invite à nous expliquer un petit peu comment ça a débuté. C'est quoi un peu ton parcours d'entrepreneur, mais comment que Loop a débuté, puis jusqu'à aujourd'hui, là, à quoi ça ressemble Loop? Donc, David, on te laisse le micro.
Avec plaisir. Merci, Jonathan. Ben oui, ben écoute, j'avais, je pense, 34 ans exactement. Puis, je venais de tomber en amour. J'étais à la tête de Rise Kombucha, une entreprise de kombucha qui est numéro 1 au Canada. Puis aussi de Cru d'Essence, une chaîne de restaurants cru vegan. J'avais commencé ma première business à 24 ans, j'avais rien. J'avais commencé avec une glacière, un Bessic acheté sur Craigslist, puis j'avais même pas d'argent dans mon compte en banque, puis c'était mon premier projet, puis doucement ça grossit. Puis après 8 ans d'avoir fait ces deux business-là, j'étais à un endroit où est-ce que j'étais devenu un peu un danger pour ma propre entreprise, dans le sens que moi, j'aime ça faire des nouveaux projets, j'aime ça avancer, j'aime ça écrire des livres, faire des nouvelles recettes, ouvrir des nouveaux restos. Puis là, tu sais, des fois, à un moment donné, ton entreprise a besoin de consolider, là, arrêter de juste faire des nouvelles affaires. Quand j'amenais des nouvelles idées, quand ton équipe te regarde avec les gros yeux en se disant non, il va encore sortir une nouvelle idée, dans ce sens-là, il faut que tu te calmes, là, tu sais. Puis j'étais rendu là, puis je commençais à m'ennuyer, puis j'ai eu un téléphone, j'ai eu un appel de Frédéric Monette. Je le connaissais pas. Il me connaissait pas, mais il avait entendu parler de moi. C'était vraiment un add-on. C'était son coach personnel d'entraînement physique qui avait dit, tu devrais l'appeler pour ton problème. Il m'appelle et il me dit, David, je jette 20 tonnes de fruits et légumes par jour dans mon entrepôt. Je l'ai pas cru. J'ai raccroché carrément. J'étais comme, ça se peut pas. Il y a aucune chance que ça se peut que tu jettes 20 tonnes de fruits et légumes. Puis, écoute, je n'ai parlé à ma copine que je viens de rencontrer qui travaille en développement durable dans les grandes entreprises agroalimentaires. Elle a fait une petite recherche. Puis elle a dit, non, rappelle-la, je pense que ça vaut le coup. Je l'ai rappelé, puis il a dit, viens visiter, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe chez nous. Puis on est allé le visiter. Puis il m'a montré qu'est-ce que j'étais cette journée-là. Puis j'ai eu des frissons, là, comme j'ai jamais eu. Puis quand j'ai des frissons, d'habitude, ça veut dire que c'est bon signe, il se passe quelque chose. T'sais, c'est souvent avec mes frissons que je prends des décisions, moi. Puis là, il m'a montré 20 tonnes qui j'étais cette journée-là. C'était 24 tonnes même cette journée-là qu'il y avait de mangue, d'ananas, de céleri, d'avocat, de concombre, de raisin. Toutes des fruits et légumes qui étaient supposés d'aller sur une tablette d'épicerie au IGA ou chez Metro, whatever. Puis ce gars-là, ben, il est vice-président d'opération de Courchain-la-Rose. C'est son arrière-grand-père qui est parti il y a 105 ans aujourd'hui. Fait que la business est centenaire. Puis ça fait des dizaines et des décennies, même un centenaire, qui ont des surplus de fruits et légumes qu'ils jettent, en fait. Puis tous ces fruits et légumes-là qu'il m'a montré cette journée-là, il m'a dit ça, David, à chaque jour, ce rack-là se remplit de 20 tonnes à chaque jour. Puis on l'envoie à don, au site d'enfouissement. Pas au compost là ou en biométhanisation. Non, ça va à don, au site d'enfouissement. Ce qui est la pire chose à envoyer au site d'enfouissement, c'est de la matière compostable. Ça crée du lixivia, ça fait des gaz à effet de serre à fond, ça contamine les sols. C'est comme, c'est la pire affaire. Fait que j'ai capoté, puis j'ai dit, Fred, faut qu'on fasse quelque chose. Merci de me montrer ça, j'apprécie bien gros. Puis écoute, j'ai mis mon entreprise en vente. Julie a vendu sa maison, on venait de se rencontrer. On a déménagé ensemble dans un petit appartement au marché Jean Talon. Puis on a parti Loop avec Fred, on s'est associés, puis on a dit on part ce projet-là, puis on a commencé à faire des jus avec leur surplus. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris leur data. Puis ce qui est fou, c'est que Fred m'a donné un fichier Excel, puis il m'a dit, garde, check ça. Puis le fichier Excel, c'était les pertes des dernières années, mais aussi des 4-5 prochaines années en fruits et légumes par période de 4 semaines. Fait qu'on travaille en période de 13 mois, nous, avec 28 jours par période. Puis à chaque semaine, il sait qu'est-ce qu'il va jeter l'année prochaine. C'est quand même malade, là. S'ils ont tellement de data, ils savent qu'est-ce qui va être en surplus. On sait qu'est-ce qui est en saisonnalité. On sait qu'est-ce qui va arriver en abondance sur le marché, qui va avoir en général un peu trop. Puis il y a toujours une commodité qu'on jette un peu plus dans certaines saisonnalités parce que tout le monde en a, ce qui fait que les prix chutent, fait que personne veut en acheter, etc., etc. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de spéculation dans le monde du fruit et légumes. Puis comme n'importe quelle entreprise, tu veux toujours en avoir un petit peu plus pour pas perdre des ventes puis pas perdre des clients. Tu sais, j'étais en restauration, c'était le même concept. En restauration, ton menu, tu veux pas arriver à la moitié de la soirée puis dire à madame qui te commande, ah non, désolé, la moitié du menu, je l'ai pas parce que je voulais pas gaspiller. Tu sais, je voulais être safe. Tu peux pas faire ça. Fait que t'achètes toujours un peu plus puis t'as une perte acceptable dans ton industrie. En restauration, c'était 7 %. Fait que moi, en resto, je savais que si je perdais 7 % au moins de mes aliments, j'étais bon. Tu sais, j'étais dans mon range, en fait, tu sais. Puis un comptable qui checkait mes états de résultats, s'il voyait que je rebut et perte, j'étais en bas de 7%, il disait « OK, bon, t'es correct. » Ça reste une ligne dans tes chiffres, dans un papier que tu regardes, tu sais. Puis ben, pour l'industrie du fruits et légumes, c'est encore plus serré, c'est 3%. S'ils perdent plus que 3%, ça va pas bien, là, parce que les marges sont vraiment faibles dans cette industrie-là. Courchain, eux, c'est encore moins, ils sont vraiment bons. Ça fait 100 ans qu'ils font ça, ils perdent juste 2%. Mais 2%, pour eux,
c'est énorme.
20 tonnes par jour.
C'est énorme.
C'est malade, c'est fou. Vas-y.
Mais je t'arrête un instant, David. Je veux juste mettre en surbrillance quelque chose. Quand t'es allé là-bas, là, la première fois, puis que t'as vu 20 ou 24 tonnes, ça ressemble à quoi en termes de grosseur visuelle, 24 tonnes, pour mettre l'auditoire en visuel, là?
Imagine un racking de 40 pieds de haut. Il y a 4 palettes de haut. Okay? Les palettes font facile 6 pieds de chaque. Okay? C'est environ 6 pieds une palette. Pensez à des boîtes. En fait, c'est tout des fruits et légumes qui sont destinés à la consommation. Fait que c'est pas un vrac. C'est vraiment des barquettes de fraises en plastique, comme on imagine, à 454 grammes, là, une livre, des petites barquettes de bleuet, des mangues dans une caisse avec les étiquettes sur chacune des mangues, des raisins en sac dans une caisse, etc., tout empilé les unes les autres sur une palette. Puis c'est environ 35 palettes comme ça, 35-40 palettes.
Donc, ça serait l'équivalent, quand on rentre, exemple, à l'épicerie, toute la partie des fruits et légumes à chaque jour, ça, c'est quelquefois un visuel qu'on pourrait avoir dans notre tête de ça qui est jeté, là.
Ah ouais, 100%. Ça, au IGA, puis tu regardes toute la section des fruits et légumes qui est là, c'est plus que ça. C'est à peu près, peut-être la section des fruits et légumes d'un IGA ou d'un métro, fois 5 à peu près à chaque jour.
Wow.
Un entrepôt, là, c'est un entrepôt de fruits et légumes. Ils ont des compétiteurs à Courchain, là, c'est pas les seuls là, ici. Puis là, ça se passe ici, ça se passe en Ottawa, ça se passe à Vancouver, à Londres, partout, là. Je veux dire, c'est dans toutes les villes, c'est le même concept de spéculation. Personne ne veut perdre de vente. Tout le monde en achète un peu plus. Tout le monde a une perte d'environ 3 % dans leur entrepôt. Mais le gaspillage alimentaire, c'est plus que 3 % c'est 45 à peu près pour cent. C'est plus qu'un tiers des aliments qui est rejeté au Canada en ce moment. De tous les aliments qu'on va importer ou qu'on va faire pousser ici, au moins minimum un tiers va être envoyé à la dompe avant d'être consommé.
Et là, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que cette donnée-là, qui en plus était disponible dans un fichier Excel avec des prévisions là, de pratiquement un an à l'avance, cette donnée-là, elle est disponible et elle existe depuis des années, voire des décennies, et personne a eu la petite étincelle de dire « je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça ». Là. C'est ça qui est impressionnant. Là.
Tabou. Il y a plein de raisons. Premièrement, le gaspillage alimentaire, c'est tabou. Les industries ne voulaient pas en parler. Parce qu'ils voulaient pas avoir de lumière sur eux là-dessus. Ça, c'était apprendre des choses. Après, les vendeurs aiment mieux vendre quelque chose à profit que de gérer leurs pertes. Surtout qu'il y a un pourcentage accepté de l'industrie, si on veut, tu sais. Puis souvent, quand une entreprise est rendue grande, le propriétaire d'entreprise puis tous les exécutifs sont souvent pas en contact avec la perte. Ils la voient pas physiquement. On la voit sur papier. Puis quand tu vois des pertes sur papier, c'est vraiment moins grave parce que c'est des chiffres, oui, si c'est en parenthèse, mais si c'est acceptable puis ton bottom line il est beau, tu le vois moins. Tu sais, quand ton bottom line il est négatif, ben là, t'as peut-être plus de tendance à le remarquer, là, mais quand l'entreprise est vraiment grande, souvent leur bottom line il est positif, ils regardent pas les pertes. Tu sais, c'est comme un truc acceptable. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi le fait, c'est un peu une roue qui tourne, en fait. Tu sais, puis il y a ça, j'entends souvent les gens me disent, ouais, mais est-ce que tu penses que ça va arrêter un jour? Puis la réponse est non, parce que on vit dans un monde d'abondance. T'sais. On demande en tant que consommateur que dans les épiceries, qu'on aille chez Metro, IGA ou Walmart ou Sobeys, on s'attend à ce qu'il y ait de tout. T'sais. On s'attend à ce que la tablette soit pleine. Puis une tablette pleine vend plus. C'est prouvé. C'est mieux de remplir ta tablette puis de subir une perte de 10 % sur ta tablette. Ce que tu vas vendre va vraiment être beaucoup plus intéressant que ta perte de 10 % à cause que l'abondance fait acheter, en fait, c'est prouvé. Ce qui fait que c'est un peu une réalité qui reste, qui va rester encore. Ce qui fait que ben nous, on est nés de ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que nous, on a vu un gisement dans le data. On a regardé qu'est-ce qui était rejeté. On a analysé ça, puis on a créé des recettes en fonction du data. On a regardé qu'est-ce qui jetait le plus en plus grande quantité. Puis on a tout analysé ça. On a dit qu'est-ce qui s'agence bien ensemble. J'en ai créé des recettes. J'avais déjà écrit beaucoup de recettes dans ma vie. J'avais des livres de recettes, fait que c'était quand même facile pour moi. Puis on a envoyé ça à un sous-traitant. On a dit, check, tu vas faire des jus avec ça. Ce qui fait que quand on a parti la business, on était vraiment en ligne. C'était Julie puis moi, Fred qui montait sur une palette les recettes que j'avais données avec ce qu'il allait à don. Fait que lui, il est dans son rack de ce qui était jeté. Il ramassait ce que j'avais dit de ramasser avec les poids puis les kilos que j'avais dit de faire par recette. On envoyait ça à un sous-traitant qui avait une presse à jus. Il pressait ça, il mettait ça en bouteille. Il nous renvoyait ça, puis j'ai commencé à livrer. T'sais, j'ai commencé à livrer les petits cafés, les petites places qui m'avaient supporté au début avec Rise Kombucha. Puis ils ont trippé tout de suite, en fait. T'sais. Puis ça a fait boule de neige, comme ça, on a grandi doucement. Puis éventuellement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse notre propre usine. Parce que le gros problème de ce gisement de surplus-là, c'est qu'il n'y a pas une longue durée de vie. C'est qu'il y a 3-4 jours de durée de vie. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les fruits et légumes qui sont rejetés en entrepôt d'un distributeur qui vend des grandes bannières, c'est pas ce qu'on s'imagine. Tu sais, je sais que les consommateurs, en ce moment, quand ils nous écoutent, ils se disent, OK, ben là, c'est-tu des raisins moisis, puis des fraises avec de la barbe, qu'il faut que tu tries, puis c'est pas ça. En fait, c'est que le cycle de distribution prend du temps. Ce qui fait que quand dans l'entrepôt de fruits et légumes, la banane commence à être mûre, c'est-à-dire qu'elle est plus verte, elle est jetée. Parce que y a personne qui va l'acheter. Parce qu'on n'a pas le temps de la distribuer. Parce que Metro, là, quand ils achètent une vanne de raisins, là, ou une vanne de banane, une vanne de mangue. Là. Ils veulent que la mangue soit pas mûre. Ils veulent qu'elle soit pas prête, que la vanne ait le temps d'être livrée dans son entrepôt, qu'elle soit sortie, qu'elle soit dispatchée à toutes les épiceries du Québec, okay? Qu'elle ait le temps d'être sortie du warehouse en arrière de l'épicerie pour être mise sur la tablette, que le consommateur puisse l'acheter puis se l'amener chez eux puis qu'elle ait le temps de mûrir encore. Il y a un cycle de 2 semaines. Ce qui fait que si le fruit ou légume commence à être mûr dans un entrepôt de fruits et légumes, qui coûte cher du pied carré réfrigéré, on le jette, on l'envoie à dump parce qu'il faut faire de la place pour le nouveau stock qui arrive. T'sais. Fait que ce qu'on reçoit, encore à ce jour, ça fait bientôt 7 ans que je fais ça, je suis encore mêlé. T'sais, je fais des visites d'usine des fois, puis je monte dans notre entrepôt de fruits et légumes, qu'est-ce qu'on reçoit? Puis le monde sont comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont les oranges? C'est quoi leur problème? Puis je suis comme, ah non, ils ont pas de problème, en fait. Ils sont juste La petite tâche ici, là, ben, elle a été triée. Les oranges sont triées dans un truc photographique là, qui prend à peu près 50 images secondes. Puis dès qu'ils ont une petite tâche, ben c'est rejeté, en fait. C'est envoyé de côté. Puis eux, ils mettent ça dans une bine. Eux, avant, ils envoyaient ça aux déchets. Mais maintenant, il y a une bine pour loup, qui est écrit loup sur le convoyeur carrément. Puis ça s'en va chez nous, tu sais. Même chose pour les poivrons, même chose pour les céleris, etc. Fait que c'est un peu la réalité de l'industrie.
Et je veux juste retourner encore au moment quand tu as rentré pour la première fois puis tu as vu tout cet excédent-là, là, quand tu es rentré dans cet entrepôt-là. Tu étais à un stade dans ta vie où ce que la business allait bien. Tu avais, je pense, les deux business allaient bien, au-dessus d'une centaine d'employés, là, si ma mémoire est bonne. Et tu dis, je repars à zéro. Je vois qu'il y a une data qui n'a pas été valorisée, puis je pense qu'il y a un modèle d'affaires qu'on peut faire avec ça, et je reprends un risque. Là. Je pense que tu as vendu une des deux entreprises, tu as réussi à déléguer les opérations de l'autre, puis on repart pratiquement dans le sous-sol avec ta conjointe, puis c'est toi qui retournes sur les camions à ce moment-là faire la livraison, donc on repart vraiment à zéro. Là.
Ouais, il n'y a pas grand monde qui aurait fait ça. Moi, je t'avoue que je m'ennuyais du start-up. Je faisais beaucoup de meetings là, que j'étais dans le board meeting, puis on parlait de finance, puis d'HR, puis j'étais comme plus bien, tu sais. Puis je m'ennuyais de retourner dans un mode startup, de comme repartir à zéro, mais avec toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé, puis tous ces apprentissages-là, un peu refaire une business, mais ça faisait longtemps que je me disais j'aimerais ça faire une business de zéro avec tout ce que j'ai appris. Puis pour voir à quel point ça peut aller plus vite, en fait. Parce que tu sais, quand tu commences puis t'as jamais fait ça, t'en fais des erreurs, puis t'en fais des niaiseries, puis tu donnes des actions à des amis que tu dis « Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse », puis tu fais toutes les erreurs du monde. Je les ai toutes faites, là, tu sais. Fait que Loop, c'était un peu mon propre après mon brouillon. Puis je dis pas que mes autres business, c'était des brouillons. Au contraire, Rice, c'est une super belle entreprise, puis elle va encore très, très bien. Crescent, je l'ai vendu en 3 mois. Fait que ça veut dire que ça allait bien. J'ai eu un acheteur qui est arrivé très vite. Mais Loop, c'était vraiment, puis je voulais que la mission soit vraiment intégrée au cœur de l'entreprise, en fait. Qu'il n'y ait pas de manière de outrepasser la mission, en fait. Puis, tu sais, Crescent, sa mission, c'était d'amener l'alimentation saine, d'éduquer les gens avec notre académie culinaire, comment se réapproprier la santé. J'étais à fond dans le bio, etc. Avec Rice, c'était de un peu trouver une alternative aux boissons gazeuses. Puis, mais il y avait toujours des failles. J'avais toujours l'impression que plus tu grandis une entreprise manufacturière, plus tu as un impact environnemental, veux pas. Tu as plus de transport, tu as plus d'emballage, tu as plus de ci. Puis là, je voulais faire une entreprise avec Julie, qui était en développement durable, qui, elle, était tannée d'être vue comme le poste de dépense. En développement durable d'une grande entreprise, c'est vu comme du marketing. C'est comme, okay, toi, tu vas redorer notre blason. T'sais, nous, on a un impact environnemental néfaste, puis toi, tu vas faire des actions qu'on va mettre de l'avant sur notre site web en première page. T'sais, si vous allez sur n'importe quel site web maintenant, n'importe quelle entreprise agroalimentaire, la première chose que vous allez voir, c'est les bonnes actions. Mais c'est souvent rien par rapport à l'empreinte de l'entreprise. Puis Julie était tannée de faire ça. Puis elle voulait trouver une entreprise qui faire créer un projet où est-ce qu'on est net zéro. Non seulement net zéro, mais que plus on vend, puis plus on grossit, puis plus on scale, même quand on devient une multinationale internationale, que en fait, on est carrément net positif, littéralement. T'sais. Puis c'est un gros défi. Puis avec Loop, on est là, on est net positif parce que l'impact environnemental d'un fruit et légumes au site d'enfouissement est énorme. Quand tu regardes le gaz à effet de serre que ça crée, en fait, si tu le considères, le gaspillage alimentaire mondial, comme un pays émetteur, là, mettons que c'est un pays émetteur, c'est le troisième pays le plus gros après la Chine et les États-Unis. Ça émet beaucoup, en fait. Fait que d'enlever ça, de trier la matière en plus, d'envoyer le plastique à bonne place, le carton à bonne place qui se faisait enfouir, ça a un impact énorme. Ce qui fait qu'on s'est dit, OK, ben on va partir ce projet-là, puis on va avoir aucune faille, en fait. C'était ça l'idée. Fait que chaque chose qu'on fait, on l'étudie en analyse de cycle de vie. Notre emballage, on fait des analyses de cycle de vie dessus. On a besoin de PET numéro 1. Les gens disent, ah, c'est du plastique, c'est pas bon, mais en fait, c'est le meilleur emballage qu'on peut utiliser. C'est l'emballage qui a le plus de valeur commerciale, qui est le plus recyclé, le plus recyclable. Fait que chaque chose qu'on fait, on le réfléchit. Excuse-moi, je parle beaucoup, hein. Je me garage dans plein de directions.
C'est exactement ce qu'on veut entendre, David, aujourd'hui. C'est vraiment pertinent ce que tu mentionnes. Puis, il y a probablement beaucoup de personnes qui nous écoutent présentement, qui sont soit dans leur entreprise, puis que là, ils ont une idée de produit, qui veulent se relancer un peu en mode startup, ou des gens qui sont à l'emploi, qui veulent lancer leur startup. Tu as fait le grand saut, honnêtement, de dire, j'avais une business qui roulait. On comprend un peu une partie de la motivation qui est, je veux retourner en mode startup, puis tu sais, avoir un impact peut-être environnemental beaucoup plus fort, qui est réfléchi, puis de voir si je suis capable d'aller plus vite, ce qui est beaucoup un mode entrepreneur. Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais dire aujourd'hui pour essayer peut-être de motiver les gens à dire, gars, passez à l'action, puis il y a peut-être des mantras que tu disais pendant cette période-là de repartir à zéro. Y a-tu des moments difficiles que tu as eus, que tu aimerais partager, qui peut peut-être inspirer les gens puis dire que au final, ça vaut la peine de prendre le risque, là?
Ben, faut être prêt à tout perdre. Puis pour être prêt à tout perdre, il faut savoir que notre bonheur ne vient pas de notre matériel puis notre statut social. Sans ça, tu la trouilles tout le temps. Puis moi, j'ai eu la chance, tu sais, moi, de 16 à 24 ans, j'étais un vagabond. Je vivais avec rien dans les poches, presque rien. Je travaillais sur des fermes dans le monde quand j'avais pas d'argent. J'habitais à Hawaï la dernière année de ce voyage-là, où est-ce que j'habitais presque tout nu sur une plage, sur une ferme bio, où est-ce que je faisais du travail en échange d'être logé. Puis j'étais le plus heureux au monde. Puis je pensais que je vivrais là le restant de mes jours. C'est juste que là, j'avais une passion, je voulais partager l'alimentation vivante, je trippais là-dessus. Fait que je voulais le partager au monde, puis je suis venu à Montréal pour partir un projet pour ça. Mais quand j'ai parti mon premier business, j'avais aucune crainte parce que j'avais rien à perdre, tu sais. J'avais zéro dans mon compte en banque, même qui était dans le négatif. Fait que j'avais rien à perdre, littéralement. Puis quand j'avais une business, presque 200 employés avec mes deux entreprises, en fait, puis un chiffre d'affaires combiné peut-être de 26, 27 millions avec les deux entreprises, puis je suis parti à zéro, tu sais. Moi, j'ai toujours resté connecté avec ce David d'avant-là, en fait, tu sais. Puis ça m'est arrivé même dans ma première entreprise de brailler, d'être roulé en boule dans mon appartement, à me dire « shit, je pourrais pas payer mes employés cette semaine. Genre, j'ai un payroll de 75 000 $ qui rentre, là, puis je l'ai pas. Qu'est-ce que je vais faire? » Puis c'est dans 3 jours, puis j'ai zéro dans mon compte de business, là. Comment qu'on va faire ça? J'ai eu des situations comme ça, tu sais. Puis je m'en suis toujours sorti. J'ai toujours trouvé une solution. J'ai parlé à mes banquiers, j'ai fait des téléphones, je me suis levé de mes fesses, puis j'ai appelé le monde pour dire j'ai des problèmes, pouvez-vous m'aider? Puis souvent on oublie que les gens peuvent nous aider aussi, hein. Tu sais, quand on a des problèmes, on est poigné dans nos problèmes, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Le monde comprend ça, tu sais. Mais je te dirais que ma grosse chance, c'est d'avoir cette compréhension-là que j'ai pas besoin de matériel pour être heureux. Ça sonne vraiment cliché, mais c'est encore là-dessus que je me connecte aujourd'hui, tu sais. Parce que c'est dur, plus t'es confortable, c'est plus t'as un bon salaire, tu sais, j'ai un bon salaire aujourd'hui, là, ça va bien mes affaires, j'ai un terrain de 80 acres que je vis dans le bois, j'habite au paradis, tu sais. Puis je suis encore un peu au bat, tu sais, je pourrais perdre ça peut-être un jour, ça se peut, tu sais, parce que je prends des risques encore aujourd'hui, tu sais. Puis c'est plus dur aujourd'hui de prendre ces risques-là, parce que là, j'ai ce matériel-là. Puis je le vois souvent, tu sais, les jeunes qui sortent d'université, qui sortent d'un job, qui veulent se partir en affaires, souvent, ils ont déjà une hypothèque, ils ont déjà des biens matériels, ils ont deux chars, ils ont... C'est dur de se lancer, t'sais. Mais il faut toujours se rappeler qu'on n'est pas nos biens matériels, carrément. Puis on peut toujours se relancer. Puis le moins de choses on a, le plus heureux on est.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. J'adore tellement comment tu le phrases, David, puis comment tu réussis à livrer cette delivery-là, parce que je partage tellement cette perception-là de se lancer en affaires, puis surtout de le faire jeune. J'ai eu la chance de partir à 19 ans, puis souvent les gens disent « Ah, c'est bon que t'es parti de ta business. » Je dis « Ben, j'avais rien à perdre. » Puis j'admire tellement les gens qui sont rendus des fois à 30, 40, 50 ans, qui se lancent en affaires. Il y a tellement de choses que tu peux perdre rendu là parce que t'as accumulé des choses, t'as accumulé un confort, il y a une famille que t'as à faire vivre, fait que c'est toujours plus difficile parce que là, c'est plus l'appât du gain. Peu importe c'est quoi le gain, là, généralement, ça doit pas être monétaire. Pourquoi tu te lances en affaires? Ouais. C'est plus pour le défi, le challenge, l'apprentissage, la croissance. Puis c'est souvent ce qui fait que les gens réussissent s'ils se concentrent là-dessus. Mais il y a quand même un appât du gain plus fort quand t'es jeune, qui est là, t'as moins la peur de perdre parce que t'as rien à perdre.
Exact.
Donc, ceux qui nous écoutent puis qui sont encore dans ce mode-là ou qui ont encore la jeunesse, puis la jeunesse peut être définie de 10 ans jusqu'à 45, 50, peu importe, là, mais je pense que c'est important de pas avoir des obligations financières trop élevées ou du moins d'être très frugal. Puis moi, je remercie tellement les gens autour de moi puis les coachs, les mentors que j'ai eus qui m'ont dit « Vite à vingtaine de manière extrêmement frugale, puis au moins tu n'as rien à perdre, puis tu peux prendre des risques, puis tu bâtis quelque chose, puis éventuellement avec l'argent des placements que tu feras, puis les actifs, les intérêts de ça, tu commenceras à te payer un luxe. » Puis à partir de là, il n'y a plus personne qui peut t'enlever ça. Si c'est les intérêts de tes placements qui payent ton luxe, ben c'est, tu peux continuer à risquer puis il n'y a pas de problème au final. Là. Mais comme tu dis, il y a tout le temps des petits bouts des fois que les banques prennent en garantie puis tu es quand même au bat. Mais je trouve super intéressant cet aspect-là de dire faut pas se rattacher à ses biens matériels. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on est libre un peu.
Ouais, puis c'est correct aussi d'être attaché à certains biens matériels, puis de savoir, faut se connaître en fait. Il faut se connaître. Puis si les personnes qui nous écoutent ont 45 ans, ils ont une job steady, ils gagnent 150 000 par année, puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont de besoin, c'est possible aussi de se partir en affaires. Faut juste savoir c'est quoi notre besoin, c'est quoi la base. Puis c'est juste que si au début que tu partes en affaires, tu as besoin d'avoir quand même ton salaire de 150 000, faut que tu le prévois. Faut que tu le mettes dans tes prisons financières, faut que ton salaire soit là, faut que tu ailles chercher, faut que tu donnes plus d'équité à quelqu'un qui va pouvoir rentabiliser ce salaire-là. Faut que tu sois plus organisé dans tes planifications financières que si tu startes à la bohème comme j'ai fait, tu sais. Puis en même temps, c'est la chose à faire, tu sais. Je recommande pas au monde de partir avec pas de prévision financière maintenant, tu sais. Il t'en faut des prévisions, puis faut que maintenant, les gens que je coach, je leur dis, mets-toi ton salaire tout de suite dedans, là. Commence pas à avoir le cul sur la paille, à pas te payer. Non, non. Mets ton salaire d'imprévision, puis on va aller chercher on va lever l'argent que tu as besoin pour que tu vives. Tu sais, c'est, faut le faire de même, là.
Et une autre question pour toi qui me vient en tête. T'as vu une opportunité, t'avais déjà bâti quelque chose de très, très, très bien. T'aurais très bien pu faire un autre business en plus, en parallèle. Puis c'est souvent ce que les gens ont comme réflexion pour développer un produit technologique. C'est je lâcherai pas ma business actuelle, je lâcherai pas ma job. J'ai quelque chose, je vais le faire en parallèle. De ton côté, tu as dit, je mets une croix pratiquement sur tout ce qui est là puis je me concentre de l'autre côté. Qu'est-ce qui t'a motivé à dire de, je veux pas le faire en parallèle? Puis aujourd'hui, à quel point tu valorises le fait d'avoir pris cette décision-là?
Ben, c'est drôle parce que je me suis posé la question au début. Puis après, je me suis dit, il faut quand même que mes babines suivent mes bottines. Puis je faisais déjà du coaching un peu à ce temps-là. Puis tout le monde qui était temps partiel ou qui avait une job. Je me souviens, je coachais un gars qui était chez Hydro-Québec puis il voulait partir sa business. Puis j'étais comme, oublie ça, là. Tu peux pas faire ton projet puis être chez Hydro-Québec temps plein. Ça marchera pas, tu sais. Puis je l'ai poussé à sortir. Puis fait que j'ai toujours dit ça au monde. Si t'es pas temps plein, ça va toujours rester un side project qui va sûrement... Tu vas sûrement laisser tomber d'ici 2-3 ans. Comme il faut que tu sois temps plein quelque chose si tu veux que ça lève, en fait. Surtout si c'est toi le moteur du projet. T'sais. Fait que ça n'a pas le choix. Pour moi, c'est inévitable. Toutes les gens que je vois qui partent une business, qui disent qu'ils travaillent ailleurs, je les arrête toujours tout de suite. Je leur dis, pas intéressé. Viens me revoir quand t'es temps plein. Parce que, oublie ça. Enfin, mais sinon, ça marche pas.
Et il y a une bonne phrase qui me résonne en tête quand tu mentionnes ça, c'est que l'énergie se crée où le focus est. Donc, si t'es pas focus sur quelque chose ou t'es splitté dans 32 choses, ça va être difficile de créer de l'énergie puis du dynamisme puis du mouvement à ce moment-là dans son idée. Puis il y a souvent des fenêtres d'opportunité à saisir. Dans ton domaine, on parle beaucoup de valorisation de données qui dormaient depuis des dizaines d'années. Mais ta perception, si tu n'avais pas saisi cette opportunité-là, est-ce que tu penses qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait parti quelque chose? J'imagine le fait que tu aies parti ça, il doit y avoir beaucoup de compétiteurs après qui tentent de reproduire un peu ce modèle d'affaires-là.
Ouais, je pense qu'il y a des vagues, il y a des trends dans le conscient collectif qui émergent. Il y a toujours un précurseur à cette émergence-là. Loop, on a clairement été le précurseur. Je l'ai été dans Rise aussi, pareil. Je l'ai été dans Crescence pour le vegan aussi. Je suis quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est pas vrai, je suis pas le précurseur. Moi, j'invente rien. Je vais en Californie, je regarde ce qui se passe là, puis je sais que 5 ans plus tard, ça va devenir un trend ici, en fait. C'est ça que j'ai fait pas mal. Tu sais, le kombucha, ça existait déjà là-bas, je l'ai amené. Le raw food, le vegan, ça existait là-bas, je l'ai amené. Le gaspillage alimentaire, c'est la seule chose qu'on a créé de toute pièce d'ici parce que je me suis fait appeler puis fallait que je fasse quelque chose. Je savais même pas c'était quoi de l'économie circulaire. Okay? C'est ça qu'on fait. On fait de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur sans retirer de ressources. Puis il y a le mot économie qui est vraiment important parce qu'on donne de l'argent. Tu sais, nous, on dépend pas des dons. On dépend pas, on reçoit pas la matière gratuitement pour faire les produits qu'on fait avec, les jus puis la bière puis le gin. On la paye, cette matière-là. On encourage les entreprises à regarder ce qu'ils jettent, à regarder leurs data, puis on leur montre que ça a de la valeur, cette data-là. C'est pas des déchets. Puis qu'ils peuvent faire un revenu avec ça. T'sais. Notre partenaire principal, il fait des millions de revenus qu'il faisait pas avant.
C'est du profit. Profit direct, là.
Direct. Parce que si tu compares ton EBITDA, là, ton profit net, avant qu'on arrive, c'était des pertes. C'était entre parenthèses, ces chiffres-là. Puis en plus, ils dépensaient des centaines de milliers en sites d'enfouissement parce que c'est pas comme la collecte de déchets résidentiels là, qu'on paye à nos taxes, mais qu'on ne paye pas. Mais quand t'es une entreprise, faut que tu payes là, pour la collecte. Là. Ça coûte 100 piastres la palette, à peu près. C'est cher, là. OK? Fait que ça leur coûtait cher par année. Fait que là, on transforme une dépense en revenu qui va directement dans les profits nets en bas de la ligne, en fait. Fait que tout le monde gagne dans ce concept-là. Mais je savais pas c'était quoi l'économie circulaire. Pour moi, c'était juste du gros bon sens. Ça, c'était pas un terme que je connaissais. Puis c'est le NYU à New York qui nous a appelé pour dire, hey, vous êtes les précurseurs, vous êtes les leaders en économie circulaire agroalimentaire. Puis vous venez faire une conférence. Puis moi, j'étais comme, c'est quoi de l'économie circulaire? Je suis speakerphone, puis j'étais comme, ta gueule, David.
J'ai dit oui.
Je t'ai dit, c'est quoi? C'est ça qu'on fait. Puis j'étais comme, oh, yeah. OK, yes, welcome. Fait qu'on était là, on a flyé à New York pour parler de notre projet à l'université dans un espèce de chaire de recherche qu'il y avait là-bas. Mais c'est quand même drôle, parce que je savais pas c'était quoi, en fait. Puis là, aujourd'hui, on est devenu ça. On est devenu un peu le leader d'économie circulaire agroalimentaire dans le monde. On est les seuls à ce que ça soit le centre de notre modèle. Puis on a parti un mouvement que là, la plupart des entreprises agroalimentaires regardent dans leur R&D aujourd'hui. Je te le garantis, la plupart des entreprises, que ce soit Kraft ou les petites compagnies de breuvage, cherchent à rajouter du upcycled ingredient parce qu'ils savent que ça marche. Ils savent que les gens recherchent des produits qui ont ça dedans parce que ça a une certaine valeur, tu sais. Ce qui est un danger parce que tu peux rajouter un 0,5% de petites poudres de perlimpinpin de dire que c'était de la pomme rejetée. Puis là, tu mets ça en gros, puis tu barricades ça sur ton étiquette, puis là, fait que c'est dangereux. Fait que nous, on travaille là-dessus pour se battre, pour être sûr qu'il y a un minimum, que tu puisses en parler, etc. Puis on aide ces entreprises-là. Tu sais, on a créé un projet qui s'appelle Loop Synergy, parce que maintenant, on devient un fournisseur de matières premières pour les entreprises agroalimentaires, pour qu'ils puissent le réintégrer dans leurs produits. Parce que le plus compliqué des produits rejetés, c'est qu'il n'y a pas de durée de vie. Puis nous, on est rendu vraiment pro à le transformer. Fait que là, maintenant, on peut faire de la poudre, de la purée ou du jus stabilisé, que le Brix puis le pH est pas changeant, puis qu'on revende, admettons, une compagnie de bar ou une compagnie de yogourt qui vont réintégrer cette purée-là dans leurs produits pour pouvoir dire que c'est en économie circulaire, en fait.
David, c'est tellement brillant, puis ça se rapporte toujours à la donnée était là, elle est disponible, tu as été la chercher, tu as réussi à en faire un modèle économique viable, puis là, tu as encore la donnée supplémentaire, c'est une autre portion de la business que vous valorisez encore plus.
On patauge en données. Là, c'est complexe parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qui est jeté quand ou en quelle quantité, mais il faut aussi qu'on forecast vraiment bien nos ventes. Il faut qu'on sache exactement combien qu'on va en vendre de ce produit-là pour être sûr qu'on va pas surpasser le gisement de rejet. Parce que s'il faut qu'on achète la matière première pour notre produit au prix normal du marché, on pète. Ça marche pas. Notre marge est pas du tout basée là-dessus. Notre marge est basée sur des rejets, sur un prix qui est à peu près 35 cents, 40 cents dans la pièce. OK? Fait que si on paye la pièce complète pour cette matière-là, ça marche plus, ma business. Tu sais? Fait qu'il faut vraiment qu'on analyse vraiment bien qu'est-ce qui est rejeté où, puis qu'on sache combien qu'on va en vendre pour être sûr qu'on en emmagasine pas trop, mais pas assez. Fait que c'est tout qu'un défi, en fait.
Et là, ça fait, je pense, 7 ans que Loop a été lancé, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça?
Alors, 7 ans la semaine prochaine, ouais.
Bon anniversaire en avance, mais je veux savoir, David, qu'est-ce qui s'en vient en avant? C'est quoi les projets que vous avez? Il y a probablement des projets confidentiels que vous voulez pas parler, mais c'est quoi ta vision de l'entreprise ou où est-ce que tu veux amener Loop à ce moment-là?
Écoute, on n'a pas beaucoup de confidentialité chez Loop. On est assez open book. Loop Synergy, c'est un gros projet actuel pour vraiment aider les manufacturiers à rajouter ces ingrédients-là. Parce qu'on peut pas combattre le gaspillage alimentaire tout seul. C'est impossible. Il y en a tellement. Tu sais, quand on a ouvert la boîte de Pandore, là, c'était juste le tip of the iceberg. Là. C'est fou, la quantité de rejets qu'il y a dans l'industrie. En gros, c'est plus qu'un tiers qui est rejeté. Fait qu'on utilise la force des autres puis le volume des autres pour le faire. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'on est passé de jus Loop. Parce qu'au début, on était vraiment juste une compagnie de jus. On avait 4 jus. Ça s'appelait jus Loop. Puis on est devenu Loop Mission. Puis maintenant, Loop Mission, ben, on fait autant de la matière première pour les entreprises que de la bière avec du pain perdu, du gin avec les retailles de patates de Yum Yum, des biscuits avec la drèche des brasseries. On lance un thé glacé bientôt, fait avec les surplus de fruits aussi, mais d'une autre façon. Toutes nos lignes de produits qu'on sort, c'est toujours pour réintégrer le plus possible de fruits et légumes ou d'autres matières sur les tablettes, en fait, littéralement. Puis notre vision à long terme, c'est d'être à l'international, c'est d'être en Europe, aux États-Unis, en Australie. Parce que des courchains de la rose de ce monde qui jettent des fruits et légumes, il y en a partout, en fait. Puis on est déjà en train de solidifier notre brand en Europe. On a déjà toutes nos NDA signés avec les compagnies qui ont des rejets. Puis on commence à regarder comment on va s'implanter là-bas, en fait, littéralement.
Vraiment intéressant de t'entendre, David, sur ta vision en avant puis les projets qu'il y a. petite question par rapport au nom de l'entreprise. Beaucoup de gens qui partent une start-up cherchent un nom qui est pertinent, qui punch, qui souvent une syllabe, mais sont difficiles à trouver, deux syllabes au maximum. Je serais curieux de savoir c'est quoi la genèse derrière le nom. Est-ce que c'est juste un coup de chance que vous avez vu ça décrit sur un coin de bureau, vous dites c'est ça, ou il y a eu une réflexion? Puis
On a eu une réflexion, on s'est fait un genre de mood board, on a fait une activité post-it avec Fred, Julie puis moi, puis il y a plein de noms qui est sorti. On savait qu'on voulait un nom en anglais et non en français, parce qu'on savait qu'on voulait aller plus loin que le Québec, on le savait. Je t'avoue que quand on a pris Loop, on avait vraiment peur, parce que Loop, la réflexion, c'est l'économie circulaire, c'était comme ça faisait juste vraiment du sens, tu sais. Je trouve qu'on avait vraiment peur parce qu'il y a beaucoup de Loop dans le monde. Il y a des Loop Industry, il y a des Loop ci, des Loop ça dans plein d'industries. C'est pour ça qu'on a rajouté le mot mission. Puis en même temps, en rajoutant le mot mission, ben ça clarifie clairement qui qu'on est. Il n'y a plus de doute, là. T'sais. C'est ça notre force, en fait. Puis je trouvais toujours que dans les entreprises, le mission statement était toujours un truc qu'on demandait au CFO, ou bien au CEO, pardon, puis qui nous redisait une fois de temps en temps, mais on se trouvait que les entreprises souvent avaient du mal à se connecter avec leur mission. Pourtant, c'est quelque chose qu'on demande à tous les entrepreneurs, d'avoir une mission claire, une vision claire. Quand ils font des retraites stratégiques, c'est toujours là-dessus qu'ils se basent. Cette mission-là est souvent écrite sur le mur ou dans le cahier du HR. Mais est-ce qu'elle est vraiment vécue dans l'équipe? Est-ce qu'elle est vraiment vécue au quotidien, tu sais? Puis, je trouvais que dans mes entretiens d'entreprise, on se rappelait, on faisait des retraites à chaque année, puis on rappelait la mission, mais au quotidien, on la vivait-tu vraiment, cette mission-là? Tu sais, puis j'avais envie qu'on la vive au quotidien chez Loop. Puis le fait que dans le nom elle est là, c'est Loop Mission, là, gang. C'est, trompez-vous pas, là.
Ça en dit long, là.
On en a une mission, puis elle est claire, c'est de réduire le gaspillage alimentaire dans l'industrie agroalimentaire. C'est ça notre but. C'est d'éradiquer le gaspillage alimentaire. That's it. En faisant des produits en économie circulaire. This is it. Puis de devenir le leader, notre vision, c'est d'être le leader en économie circulaire dans le monde. Tu sais, c'est pas petit. Puis au quotidien, chaque décision qu'on prend, chaque appel qu'on prend, mais nos employés, ils se rappellent de ça, tu sais. Puis c'est dans notre nom. Les gens nous reconnaissent comme ça. Notre marketing est basé sur notre mission. Nos produits sont la R&D de nos produits, notre département R&D, c'est juste basé sur des gisements de surplus. On peut pas l'oublier, c'est impossible.
Tout est aligné là, vers la mission, puis le brand, même le brand est aligné vers la mission, fait que c'est vraiment pertinent. Là. C'est une belle exécution de tout ramener ça sur la même page, ou sur la même ligne, même sur les deux mêmes mots. Là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a des livres, des formations, des podcasts qui t'ont marqué dans ton parcours entrepreneurial qui pourraient peut-être être intéressants de partager pour l'auditoire? Là?
Moi, je t'avoue que bien que j'étais un grand érudit jusqu'à 24 ans, au moment que j'ai parti dans un business, j'ai arrêté de lire. J'ai juste travaillé. puis j'ai jamais eu de mentor ou de coach de monde qui m'ont dit « Ok, David, je vais te prendre sous mon aile. » J'ai jamais eu ça, en fait. J'ai toujours été un peu... J'ai eu beaucoup le sentiment de l'isolement pendant vraiment longtemps, mais j'ai pas de réponse à ça. Puis je devrais en avoir une. J'ai l'impression d'en avoir une, mais je peux pas l'inventer. À chaque fois que je fais une entrevue, on me pose cette question-là, puis je suis comme « Fuck! » Ça me déprime presque. Je suis comme que je lis pas assez, moi. Faudrait que je recommence à lire, là. Ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Mais non, j'ai pas ça, malheureusement.
Donc, si vous lisez pas, travaillez fort, puis le succès va arriver. Donc.
j'ai écrit 8 livres, fait que, tu sais.
J'aimerais ça qu'on en parle des livres. Pourquoi l'écriture de livres, puis c'est qu'est-ce que ça a donné comme résultat sur la business au final?
J'ai écrit des livres parce qu'on me l'a demandé. Pour vrai, moi, tu sais, mes premiers business, là, j'étais vraiment beaucoup dans l'écoute puis qu'est-ce que les gens veulent. J'ai parti un petit service traiteur de mon appartement, cru, vegan, avec une glacière. Puis quelqu'un m'a demandé des cours de cuisine. J'ai dit oui. On a monté une école de cuisine, carrément. Tu sais, puis dans l'école de cuisine, les gens nous disaient, vous devriez faire des livres. Puis j'étais comme, OK, là. Après 150 personnes qui te le disent, c'était comme, OK, là, faudrait qu'on fasse des livres. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. C'est vraiment... Puis après ça, c'est la maison d'édition. Le premier livre qu'on a fait de temps à marcher, la maison d'édition marcelait à chaque année pour dire « Tu peux en faire un autre? Let's go! » Fait que j'en faisais. T'sais. Fait qu'en gros, j'écoutais le besoin, puis il y avait un vide à remplir, fait que je l'ai rempli, en fait, littéralement. Je suis quelqu'un comme ça, moi. Je suis pas quelqu'un qui se creuse les méninges à faire « C'est quoi l'idée? Comment qu'on va sortir quelque chose? » Je crois vraiment pas à ça. Je pense vraiment pas que pour avoir une idée, faut que tu réfléchisses. Vraiment pas. Je pense que pour avoir une idée, faut que ton vase soit vide pour être rempli. Puis moi, c'est ça que je fais. J'essaie de me vider le plus possible. Fait que non, je lis pas, mais je bouge. Je fais des saunas toutes les 2-3 jours chez nous. Je fais le vide. Je fais du yoga. Je fais le party. Je vais danser. J'adore danser. Je suis quelqu'un qui... Tu me mets sur un dance floor avec de la bonne musique, là, je pars toute la nuit. Là, fait que j'ai du fun, je me vide, je voyage, puis dans ces moments, c'est dans ces moments-là que l'idée vient. C'est jamais à mon bureau en train de travailler que j'ai une idée. C'est quand que je suis quelque part sur une plage avec ma blonde, qu'on voit quelque chose, qu'on pense à quelque chose, qu'on est comme, oh shit, that's the next thing, tu sais.
Je trouve intéressant cet aspect-là que tu apportes parce que j'en suis coupable moi-même là, de toujours être en train d'écouter un livre, de lire un livre, d'écouter une formation, d'être toujours en train de dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rapporter à ce que je dis là. Je pense que des fois, on fait pas assez le vide, comme tu dis, d'essayer de dire, wow, on prend une pause, puis on fait juste ouvrir nos antennes pour voir ce qui se passe autour de nous, parce qu'il y a un paquet d'opportunités qui dort peut-être autour, qu'on est tellement occupé à essayer d'apprendre, à essayer d'écouter des livres, de lire des livres, puis qu'on n'a pas nos antennes assez ouvertes pour saisir ces opportunités-là qui sont devant nous, un peu
chercher.
Exactement. Puis un peu comme tu as vécu. Parce que là, tu sais, on revient à la valorisation de données. Il y a plein de monde qui ont probablement vu ou que l'opportunité a passé devant leurs yeux, que la donnée était là, personne n'a rien fait. Puis de ton côté à toi, tu avais assez de place pour avoir une ouverture à aller explorer cette idée-là, puis tu as capté l'idée, puis tu l'as amené en modèle d'affaires qui est efficace par après, puis qui est innovant là, à l'échelle mondiale. Là,
carrément. C'est comme l'amour. Faut pas le chercher, ça vient, right? C'est la même affaire. Les idées entrepreneuriales, ils viennent à nous.
C'est vraiment intéressant, David. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter avant qu'on termine le podcast d'aujourd'hui?
C'est ça, j'invite tout le monde à venir voir un peu ce qu'on fait, puis être inspiré. On espère vous inspirer vraiment. Souvenez sur notre site web, là, vous allez voir, on va... En fait, c'est quoi? Je devrais donner un code promo. On va appeler ça OpenMind15. Let's go, OpenMind15. Puis... Je vais donner ça à mon équipe. Fait quand les gens vont écouter le podcast, là, vous avez un code promo, vous pouvez venir nous encourager. Chaque personne qui achète un produit Loop encourage un mouvement énorme. Puis je vous invite tous à la maison à regarder dans votre entreprise ou chez vous, qu'est-ce qui est jeté? Qu'est-ce qu'on met de côté? Puis est-ce qu'on peut le revaloriser ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le revaloriser? Est-ce que ça peut bénéficier à quelqu'un? On a souvent plein d'affaires qui traînent chez nous, qui ça fait juste nous encombrer. Ça aide pas à faire le vide d'ailleurs. Débarrassez-vous puis amenez ça quelque part. Il y a quelqu'un qui va l'utiliser. Il y a quelqu'un à qui ça peut être utile, qui peut en faire un profit ou que ça peut même le sauver. Ça peut le supporter dans sa vie. Fait que redonnez aux autres ce que vous n'avez pas de besoin.
Et cet excédent-là peut faire un excellent modèle d'affaires si on est capable de valoriser cette donnée-là. Fait que super intéressant, David. Pour ceux qui connaissent pas encore les produits de Loop, bien que probablement tout le monde commence à connaître ça, je pense au Québec puis même beaucoup plus loin que ça parce que vos produits sont tellement wow. C'est loopmission.com. On va mettre les notes dans les descriptifs de l'épisode. On va mettre également le code promo dans les descriptifs. David, s'il y a des gens qui ont des questions ou qui veulent peut-être jaser un petit peu avec toi, le meilleur moyen pour te rejoindre, LinkedIn, j'imagine, un petit message ou...
Ouais, LinkedIn, info@loopmission.com. On répond toujours vite.
Fantastique. Et je me répète, les produits de Loop, essayez ça si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ai la chance d'avoir une conjointe qui est dans la restauration, qui me fait tester plein de produits Loop. Puis je suis un fan fini maintenant aujourd'hui. Et l'essayer, c'est l'adopter. Donc, allez essayer ces produits-là. Puis en même temps, ben c'est une bonne cause quand même environnementale au final. Et le goût est assez incroyable. Essayez-le, c'est l'adopter. Je vous dis tout de suite. David, merci beaucoup pour ton généreux temps aujourd'hui. À tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Voici ce que je retiens de ma discussion avec David cette semaine. Premièrement, regardez autour de vous, dans votre industrie, quelle donnée n'est pas exploitée qui pourrait être intéressante à mettre de l'avant, donc à en faire un modèle d'affaires. Très souvent, on va se rendre compte en creusant un petit peu qu'il y a de la donnée qui peut être valorisée, qui dort sur les tablettes depuis des années, voire des dizaines d'années, et qui peut nous permettre d'avoir un avantage très compétitif ou très différenciateur de la compétition. Deuxièmement, réfléchissez quelles sont les pertes dans votre industrie et comment vous pourriez peut-être recycler ces pertes de manière positive. Dernier point important également de favoriser un mindset d'être prêt à tout perdre. Pour y arriver, il faut être dans un état d'esprit où on n'est pas trop attaché à ses biens matériels. Donc voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuit pour vous. Notre récompense est votre partage ou votre abonnement. En ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre quelques secondes pour le partager ou pour vous abonner. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.